Merci pour avoir lu le texte. Alors, pendant que les images vont défiler sur le PowerPoint pour arriver au texte de ce matin, j'aimerais juste vous dire, celui qui a écrit ce texte-là, l'apôtre Paul, l'a écrit dans un moment où les choses étaient plus ou moins intéressantes pour lui. Il était en prison. Et ce même apôtre Paul qui... Est-ce que celui-ci fonctionne? On va regarder lui. Ce même apôtre Paul qui a écrit ce texte-là n'était peut-être pas dans une situation idéale à ce moment-là. Et l'apôtre Paul donne l'exemple d'une attitude. Oubliant ce qui est en arrière, mais portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but. Et quand l'apôtre Paul dit « oubliant ce qui est en arrière », c'est lourd de signification pour lui dire « oubliant ce qui est en arrière ». En arrière de nous, il y a toutes sortes de choses. L'apôtre Paul avait des belles choses en arrière de lui. Il y avait de moins belles choses en arrière de lui. Il y avait des choses dans lesquelles il pouvait être fier, d'autres pour lesquelles il pouvait se cacher. Quand on lit, quand on regarde l'Ancien Testament, on voit des gens dans l'Ancien Testament, même chose, certaines choses dont ils pouvaient être fiers, certaines choses dont on est moins fiers. Vous en avez de ces choses-là, j'imagine. Vous savez, on aimerait tous réécrire certains passages de notre vie. On aimerait pouvoir se taire à certains moments donnés et quand on a ouvert notre bouche maladroitement. Ou on aimerait pouvoir ouvrir notre bouche quand malheureusement on s'est tué. Et des péchés qu'on n'aimerait jamais avoir faits, qui ont donné leur lot de conséquences, qui ont produit des fruits dans notre vie dont on a les séquelles. C'est merveilleux que dans la parole, Dieu pardonne les péchés. Mais parfois, dans sa souveraineté, Dieu laisse les séquelles pour notre apprentissage, pour se rappeler le poids du péché et la grandeur du prix de la grâce. Vous savez, dans l'Ancien Testament, lorsqu'on regarde l'histoire de Lot et de sa femme, Lot était un homme considéré dans la ville. Alors, vous savez, il avait dû se séparer d'avec Abraham parce que il y avait des troupeaux énormes et chacun a dû prendre son côté. Abraham a laissé le choix à son neveu en premier. Son neveu est allé dans la plaine de Sodome et Gomorre. On les retrouve plus tard lorsque l'ange vient pour détruire Sodome et Gomorre et sortir Lot et sa femme de là. Ils n'ont pas sauvé la ville. Mais est-ce que je continue avec celui-là? M'entendez bien encore? Bon. Ils n'ont pas sauvé la ville, mais ils ont sauvé les quelques personnes que Dieu tenait à sauver. Mais l'ange a donné à Lot et sa femme une indication surprenante. Il a dit, sortez de la ville et regardez pas en arrière. Êtes-vous capable de passer en avant d'un accident sans regarder? Êtes-vous capable de passer en avant d'une maison qui brûle sans regarder? Moi, si je voyais tomber des roches de feu du haut du ciel, j'aurais envie de regarder. La femme de Lot, Lot et sa femme devaient sortir et ne devaient pas regarder en arrière. Le problème de ne pas regarder en arrière n'était pas créé par le fait que le feu descendait du ciel. Ce que Dieu venait détruire, c'était ce que Lot et sa femme avaient affectionné. La ville, le confort de la ville. Lot et sa femme étaient des personnes riches. Et la femme de Lot laissait certainement toute une maisonnée derrière elle. Elle laissait de la popularité, du prestige. Elle laissait toute la facilité de la vie qu'elle avait accumulée probablement avec son mari. Elle laissait énormément de choses, certainement. Dieu leur a dit, sortez de la ville et ne regardez pas en arrière. Ne regardez pas ce que vous laissez en arrière. Parce que ce que vous laissez en arrière, c'est ce que Dieu déteste. Et c'est ce que Dieu vient détruire. Et pour avoir regardé en arrière, elle a été laissée derrière, finalement. Parce qu'elle a désobéi à ce que l'ange leur avait demandé. L'apôtre Paul, dans le texte qui nous occupe ce matin, l'apôtre Paul nous dit, pas pareil, mais il dit... Pour moi, là, Je fais pas de cas de ma vie. J'oublie ce qui est en arrière de moi et je m'en vais en avant de moi. L'apôtre Paul avait fait des voyages missionnaires à ce moment-là. L'apôtre Paul avait emmené beaucoup d'âmes au Seigneur. Et en fait, l'apôtre Paul avait été un ouvrier remarquable jusqu'à ce point-là. Et c'est ce même apôtre Paul-là qui dit, ce qui est en arrière, là, on le laisse de côté. On regarde ce qui est en avant. Pourquoi? Il y a des choses derrière nous pour lesquelles on peut se glorifier, d'autres pour lesquelles on aimerait pas s'en rappeler. Vous savez, lorsqu'on vient au Seigneur, on vient au Seigneur avec notre passé. Pour plusieurs, le passé est une source de blocage. Beaucoup de chrétiens ont de la misère à avancer dans la vie chrétienne pour toutes sortes de raisons. Blessures pour des sources diverses. Des fois, ce sont des blessures profondes. Certains viennent au Seigneur avec des plaies qui saignent à plein jet. Ils ont eu des blessures dans leur famille, blessures au niveau de leur identité sexuelle, blessures de toutes sortes. Et vous savez, pour certains, c'est difficile de vivre avec ces choses-là du passé. D'autres ont été blessés pendant leur vie chrétienne et ils sont restés frustrés des églises, frustrés des chrétiens. Certains abandonnent de fréquenter l'église à cause de ces choses-là. Certains ont été tellement frustrés, découragés, qu'ils ont changé d'église en disant, « Moi, là, je bouge plus. » Le meilleur moyen de ne pas se faire chialer ou de ne pas attraper rien, c'est que tu grouilles pas. Tu t'assis, tu fais rien. Et c'est un mécanisme de protection pour certains. Donc, je devrais... Il veut pas? Bon, on va l'oublier. Ferme tout ça. Non, on va tout oublier ça. Ça va moins distraire. Et moi, de te dire quand tourner et tout le monde. Alors, l'apôtre Paul nous encourage. Et surtout, l'apôtre Paul nous donne une façon de regarder maintenant notre vie chrétienne. Oubliant ce qui est en arrière, se portant vers ce qui est en avant. J'aimerais juste identifier certaines choses qui sont en arrière de nous parfois, qu'on a besoin de regarder. Quand je me suis assis pour bâtir cette étude-là, j'ai fait la liste d'un certain nombre de choses de lesquelles on devrait regarder ou considérer, ne plus donner autant d'attention. Vous savez, dans la liste des choses qui ont besoin d'être adressées, trois éléments. Le premier, c'est la culpabilité. Je ne sais pas combien de fois dans mon ministère pastoral, des gens sont venus s'asseoir avec moi ou m'ont demandé de me rencontrer pour me parler de ce qu'ils vivaient et comment ils se sentaient mal. Se sentaient mal de prier. Se sentaient mal de venir à l'église. Se sentaient mal d'être dans la présence des autres chrétiens. Se sentaient mal parce qu'ils ont fait ceci ou pas fait cela. Se sentaient mal parce que ils ont fait un engagement envers Dieu. Ils ont manqué à leur engagement. Et ils sont retombés dans le péché qu'ils avaient dit qu'ils ne retomberaient pas. Se sentaient mal parce qu'ils ont fait une promesse à leur conjoint ou leurs enfants qu'ils n'ont pas été capables de tenir. Et la culpabilité les ronge. Vous n'avez pas idée combien de chrétiens luttent avec la culpabilité à toutes sortes de niveaux. Combien destructif la culpabilité peut être dans la vie des chrétiens. Il y a des chrétiens qui vont confesser les mêmes péchés des dizaines de fois, j'exagère rien, qui vont confesser les péchés à répétition. Et pourquoi? Parce qu'ils vont dire, Gilles, je me sens pas pardonné. Je sens pas que je suis pardonné. Et à chaque fois, je les ramène au principe de base dans la Bible, dans 1 Jean chapitre 1, verset 7, qui dit, si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous fait sentir purifiés de tout péché. Avez-vous ça dans vos versions? C'est drôle, hein? La Bible dit pas ça. La Bible dit pas que le sang de Jésus-Christ nous fait sentir pardonné. La Bible nous dit que le sang de Jésus-Christ nous pardonne. Ça n'a rien à voir avec les sentiments. Ça a tout à faire avec la foi. Le pardon de Dieu n'a rien à voir avec les sentiments. Je préfère que ça monte. Mais ça a tout à faire avec la foi que vous placez dans la parole de Dieu. Lorsqu'on doute et qu'on remet en question la grandeur de Dieu face à son pardon, c'est comme si on était en train de dire, « Oui, Seigneur, c'est écrit dans la Bible que tu pardonnes, mais tant que mes sentiments ne vivent pas ça, je ne le crois pas. » Et là, on va assister à des gens qui vont vivre la culpabilité à outrance et qui vont revenir, et parfois des années après, vivre encore la culpabilité après avoir demandé je ne sais pas combien de fois pardon pour les mêmes péchés. La culpabilité nous est enlevée suite à la confession et à la foi qu'on a placée dans celui envers qui on parle. La Bible dit, le verset 9 continue en disant, « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. » Si on demande ça à des chrétiens, si on demande aux chrétiens, « Le croyez-vous? » 100% des chrétiens vont lever la main. Si on pose la question aux chrétiens, « Le vivez-vous? » Oups! Pourquoi? Pourquoi placer notre foi dans certains versets et pas dans d'autres versets? Le pardon de Dieu s'obtient par la foi à la conversion et à la confession. Les deux. Et la plus grande bénédiction que le salut nous apporte, c'est de se savoir pardonner. Pas de se sentir pardonner, mais de se savoir pardonner par la foi. Tournez dans les psaumes, le psaume 32. Le psaume 32. Dieu promet de nous pardonner et de nous délivrer de cette culpabilité-là qui vient nous ronger. Le psaume 32, le verset 5, ça dit, « Je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché l'iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel et tu as effacé la peine de mon péché. » Un jour, un frère dans l'église qui avait commis un péché public, a été mis sous discipline et il est revenu à l'église quelques mois plus tard, après avoir descendu dans les bas-fonds. Et finalement, Dieu a relevé sa tête, il a confessé son péché, il a demandé pardon. Et lorsque le moment est venu de rentrer à l'église à nouveau, il m'a dit, Gilles, il dit, comment je vais faire ça? Il dit, j'ai honte. Il dit, je suis gêné de rencontrer les chrétiens. Il dit, je sens qu'ils vont me regarder puis qu'ils vont me juger. Je lui dis, oui, c'est vrai. C'est vrai que ça se peut qu'il y en a qui te regardent et qui te jugent. Laisse Dieu les juger. Mais vis comme un pardonné. Vis pas comme un condamné perpétuel. As-tu cru dans le pardon de Jésus-Christ? Crois-tu que ton péché a été pardonné, qu'il est lavé devant Dieu? Oui. Et là, j'ai mis devant lui le défi de vivre par la foi le pardon de Dieu. Et vous savez, ce frère-là est entré dans l'église, pas la tête haute, excusez-moi l'expression, comme un baveux, mais la tête haute spirituellement en vivant le pardon de Dieu. Mais là, la culpabilité est revenue, parce que l'adversaire ne nous lâche pas comme ça. Vous savez comment on fait la différence entre la vraie et la fausse culpabilité? Beaucoup de gens se posent la question, quand est-ce que c'est de la vraie culpabilité? Quand est-ce que c'est de la fausse culpabilité? Lorsqu'un péché a été confessé avec foi, et que l'adversaire revient nous remettre en pleine face notre culpabilité, c'est de la fausse culpabilité, parce qu'elle a déjà été, ce péché-là a déjà été pardonné par Jésus-Christ, par le sang de la croix, et il faut savoir dire à l'adversaire, arrière de moi, Satan, parce que Dieu m'a pardonné, viens pas faire ton mensonge. La vraie culpabilité, c'est celle qu'on ressent avant la confession. La vraie culpabilité, c'est celle qu'on ressent avant la confession. Elle vient de l'esprit. Écoute-la, celle-là. La fausse culpabilité, c'est celle qui vient après la confession. par la foi, lorsqu'on a reçu par la foi le pardon en Jésus-Christ. Et ça vient de Satan, ça vient pas de Dieu. Il faut savoir identifier les voies, les provenances, et comprendre que le vrai pardon de Dieu nous purifie, le vrai pardon nous lave. Dans le psaume 32, au verset 6, c'est écrit « Tu as effacé la peine de mon péché, qu'ainsi tout homme pieux te prie au temps convenable. Si de grandes eaux débordent, elles ne l'atteindront nullement. Tu es un asile pour moi, tu me garantis de la détresse. Tu m'entoures de champs de délivrance. » Qu'est-ce qui vient faire la détresse face à des péchés confessés déjà? Le manque de foi concernant le pardon de Dieu. Et qu'est-ce qui va nous protéger de la détresse émotionnelle? Justement, cette foi, cette certitude que lorsqu'on demande pardon à Dieu, Dieu nous pardonne et nous purifie. C'est pas merveilleux? C'est pas merveilleux, frères et sœurs, que d'avoir en Jésus-Christ cette capacité spirituelle maintenant, par la foi, d'être libéré de la culpabilité. Libéré de la culpabilité. Et ce matin, s'il y en a parmi nous qui vivent dans le passé, à cause de péchés qui ont été confessés à répétition, la honte de certaines choses, sachez que si par la foi vous avez accepté le salut en Jésus-Christ et la confession de vos péchés, vous avez confessé vos péchés, vous avez reçu Jésus-Christ comme votre sauveur personnel, sachez que Dieu vous a lavé de tous vos péchés. Si quelqu'un dans votre tête revient vous culpabiliser de ce que vous avez déjà confessé, c'est pas Dieu. C'est pas Dieu. Et c'est une merveilleuse bénédiction et tout un soulagement que de se, attention, que de se savoir pardonner, pas de se sentir pardonner. Si un chrétien vient vous dire à un moment donné, je me sens pas pardonné, faites l'exercice avec lui de revenir à la base de la foi. Crois-tu dans le pardon de Jésus-Christ? Et vous savez, l'apôtre Paul avait tout un voyage de culpabilité, l'apôtre Paul, oui, avait tout un voyage de culpabilité qu'il aurait pu avoir. L'apôtre Paul était un meurtrier. L'apôtre Paul était un persécuteur de chrétiens. Et Dieu est venu le chercher. Dieu est venu le chercher. Et l'apôtre Paul, quand il dit qu'il de ne pas regarder en arrière, c'est autant au niveau de la culpabilité, premièrement, qu'au niveau des erreurs du passé. L'apôtre Paul, lorsqu'il est entré dans le milieu chrétien, les gens le craignaient parce qu'il y avait tout un historique accroché à son nom. Et voir arriver l'apôtre Paul dans le culte du dimanche matin, à ce moment-là, c'était peut-être se poser des grosses questions sur combien de nous allons sortir du culte vivant? Ou encore, où est-ce qu'on va finir le culte? En prison ou ailleurs? Et l'apôtre Paul aurait pu marcher dans un état de découragement perpétuel avec ce qu'il avait fait. Savez-vous qu'Abraham est un beau menteur? Deux fois, il a fait passer sa femme pour sa sœur. Un beau peureux aussi. Hein? Imaginez-vous, mesdames, aimeriez-vous ça? Vous faire le coup par votre mari? Alors, on doit le regarder d'Abraham et dire, pas fort, le mari. Hein? Jacob, guère mieux. Hein? Jacob était un fiafé menteur et un hypocrite, lui aussi. Moïse, c'est un tueur. N'oubliez pas ça. Hein? Moïse, c'est un tueur. Pardon? Oh oui. L'apôtre Pierre. Hein? Celui qui, avant la croix, a dit, « Moi, je vais te suivre. » Hein? Et l'apôtre Pierre, celui qui a l'art de mettre son pied dans sa bouche jusqu'au genou. Et l'apôtre Pierre qui a promis de ne pas renier, qui a promis de suivre, prêt à mourir pour. La première fois qu'une petite femme vient lui dire, « Hey, t'es avec lui? » « Non, ne connais pas. » Tu dis avec tout un supporteur, hein, tout un ami. Alors, l'apôtre Pierre, comment humiliant ça devait être pour lui le moment donné où Jésus s'est tourné les yeux pour regarder Pierre. Pouvez-vous vous mettre dans sa peau juste un instant? Il y a de quoi fondre. Celui à qui tu as fait une promesse comme ça, il faut même pas quelques heures, même pas 2-3 heures, la même nuit, tu triches ta promesse. Tu triches ta promesse. Il y a de quoi être gêné de soi-même. Vous savez, les échecs, les échecs, j'ai mon lot, vous avez le vôtre. Il y a plusieurs raisons de ce pourquoi on pourrait juste rester assis et pas bouger et laisser faire les autres. Un jour, j'encourageais un homme de notre église à persévérer dans sa lecture personnelle. Il m'a dit, Gilles, si tu savais combien de plans de lecture que j'ai essayé dans ma vie. Il dit, garde, ça ne me tente plus d'en essayer, je les ai tous ratés. J'ai dit, comme ça, tu liras plus, là. Tu débrayes, là. Il dit, garde, ça ne me tente plus. Ça ne me tente plus. D'autres encore qui, après des échecs, crises, peu importe quoi, difficultés, ont quitté une église, sont entrés dans une autre église en disant, moi, là, je vois le bas. C'est assez, là, je ne me ferai pas mal une autre fois. Et ça, c'est sans compter toutes les gens qui ne sont pas dans les églises parce qu'ils ont été découragés, frustrés, mettez le nom que vous voulez, et ils ont choisi de dire non, moi là, c'est fini, je ne fais plus rien. Vous savez, il y a des paquets d'hommes dans l'Ancien Testament qui auraient pu dire les mêmes choses. Derrière chaque défaite, il y a des choses à apprendre. Dans le psaume 37, vous n'êtes pas loin de là, dans le psaume 37, c'est écrit, « L'Éternel affermit les pas de l'homme et il prend plaisir à sa voix. » Réfléchissez un peu sur ce que ça dit. L'Éternel affermit les pas. Pourquoi il y a besoin d'affermir les pas de l'homme? Parce qu'ils ne sont pas forts. C'est pas solide. On n'est pas solide. L'Éternel affermit les pas de l'homme et il prend plaisir à sa voix. S'il tombe, c'est pas fini. Il n'est pas terrassé parce que l'Éternel lui prend la main. S'il tombe, c'est pas fini. C'est notre Dieu, ça. J'aimerais vous présenter l'image de mon Dieu. L'Éternel a des faveurs pour nous. L'Éternel nous prend la main. Imaginez que vous montrez à votre enfant à marcher. Hein? Vous avez fait ça, la plupart de vous autres. Hein? On prend leurs mains, on les apprend à faire quelques pas. Alors, imaginez que votre enfant, après avoir fait quelques pas, bon, il tombe, OK, pleure, se relève, prend la main, il retombe encore. Après 3-4 fois comme ça, le petit vous regarde et il dit, « Coudonc, là, m'as-tu tombé de même longtemps? » Puis là, quand on tombe là-dessus, là, c'est pas toujours vide, hein? La couche. C'est dur sur le bas du dos, hein? C'est dur sur le bas du dos, tomber comme ça. C'est pas agréable. C'est pas toujours sec. Et imaginez que le petit enfant décide de dire, non, moi j'ai assez essayé, là. J'essaye plus. Garde, j'ai fait l'évangélisation, je suis pas bon, je touche plus à ça. J'ai enseigné l'école du dimanche, je suis pas bon, je touche plus à ça. J'ai essayé tel ministère, non, je suis pas bon, je touche plus à ça. Et là, à force de dire non, je suis pas bon, je touche plus à ça, des fois on se relègue à faire très peu. Ce que nous n'avons pas été appelés à. J'aimerais vous amener dans d'autres versets. Le psaume 80, tournez quelques pages. Et le psaume 80, « Ô Dieu, relève-nous, fais briller ta face. » Psaume 80, verset 3. « Relève-nous, fais briller ta face et nous serons sauvés. » Allez un petit peu plus loin dans le psaume 89. C'est écrit, « Car tu es la gloire de sa puissance, c'est ta faveur qui relève notre force. » C'est ta faveur qui relève notre force. C'est pas notre force qui relève notre force. C'est pas les hommes qui relèvent notre force. C'est la faveur de Dieu à travers sa grâce. C'est la grâce de Dieu qui relève notre force. Lorsqu'on arrive à la place où on n'a plus de force pour continuer, la parole dit, c'est ma faveur qui relève ta force. Savez-vous ce matin que, comme enfant de Dieu, vous avez la faveur de Dieu? On pourrait changer ça en disant, vous êtes sous la grâce de Dieu. Et savez-vous qu'en étant sous la grâce de Dieu, vous pouvez oublier ce qui est en arrière, vous porter vers ce qui est en avant et recommencer. Pas à faire des erreurs, mais à apprendre de nos erreurs. Savez-vous que parce que vous êtes enfant de Dieu, vous avez la faveur de Dieu pour vous donner la force de vous reprendre et de vous reprendre et de vous reprendre. Et la bonne nouvelle avec notre Dieu, c'est qu'on n'a jamais tellement manqué qu'il ne veut plus nous reprendre. La grâce de Dieu est infinie. La grâce de Dieu est infinie. Il n'y a pas de nombre de fois maximal que vous allez tomber, que vous allez échouer, que la grâce de Dieu ne sera pas encore là suffisante pour vous permettre de dire, oubliant ce qui est en arrière, me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but en Jésus-Christ. Et c'est merveilleux que autant Dieu nous donne la liberté à travers le pardon, et c'est pour ça que c'est tellement important que les chrétiens comprennent que nous n'avons pas à vivre sous la culpabilité. Autant Dieu nous donne la liberté à travers le pardon, autant Dieu nous donne la grâce à travers les moments donnés où il nous relève. Pourquoi rester à terre? Pourquoi rester découragé? Je ne sais pas comment vous êtes ce matin. J'ai le privilège de connaître très, très peu de gens ici. Donc, mais je ne sais pas si tu traverses un temps de découragement, si tu traverses un temps où tu as envie de tout débrayer. Je ne sais pas si tu traverses un temps où tu as été blessé dans le passé, si tu as eu la vie dure, soit par les chrétiens, par n'importe qui. Je ne sais pas si tu traverses, si tu vis avec la culpabilité, mais j'aimerais vous dire, frères et sœurs, que la bonne nouvelle en Jésus-Christ, c'est que nous sommes libres de la culpabilité que l'adversaire voudrait bien nous vivre, faire vivre dedans. Et en plus de ça, nous sommes sous la grâce de Dieu, sous la faveur de Dieu. Tu es sous la faveur de Dieu et Dieu veut que tu te relèves et que tu persévères. Et il va te donner la grâce de le faire. Il va te donner la grâce de le faire. Dans le psaume 107, et il va encore avec des mots plus forts. Le psaume 107, le verset 41. Alors, quelques pages plus loin. Il relève l'indigent et le délivre de la misère. Nous sommes... C'est nous autres, ça, des indigents. Au psaume 113, quelques pages plus loin, le psaume 113, le verset 7. Psaume 113, le verset 7. De la poussière, il retire le pauvre, du fumier. Du fumier, il relève l'indigent. Et oui, parfois, il y en a qui ont vraiment le don d'aller se mettre là. Mais Dieu relève. C'est pas encourageant. Dieu relève. Peu importe où tu t'es placé, par maladresse, à cause du péché, à cause du découragement qui t'a été infligé par d'autres qui t'ont tombé dessus, peu importe pourquoi, Dieu nous relève, vous savez. Et c'est ce qui fait le côté, la chose merveilleuse d'appartenir à Dieu. Dieu nous purifie de tout péché par son pardon en Jésus-Christ, à travers la croix. Et si on tombe, c'est jamais fini. Comprenez-vous? Ce n'est jamais fini si on tombe, parce que Dieu nous relève. Peu importe le bourbier dans lequel on s'est placé, Dieu nous relève et nous donne sa faveur, sa grâce, pour oublier ce qui est en arrière et se porter vers ce qui est en avant. Se porter vers ce qui est en avant. Une troisième chose qui nous empêche d'avancer souvent, c'est de regarder les victoires du passé comme si c'était ça l'affaire. Je vous explique. Lorsque mes enfants étaient, par la grâce de Dieu, on a eu, ma femme et moi, une bénédiction immense. Lorsque nos enfants étaient adolescents, un homme aisé est venu nous voir et nous dire, j'ai les reins, on aimerait payer pour vos enfants si vos enfants veulent aller au séminaire. Et on aimerait payer pour tous vos enfants, pour tout le temps qu'ils vont aller au séminaire. Wow! Imaginez-vous qu'on n'a même jamais pensé faire une prière comme ça. On priait seulement pour que nos enfants acceptent d'aller passer une année dans un séminaire avant de prendre le cégep. Et cet homme-là a pourvu aux études bibliques pour mes quatre enfants. Et pendant que mes enfants étaient au séminaire, à un certain moment donné, un de mes garçons me téléphone et me dit, « Papa, il y a un missionnaire qui est passé ici au séminaire, il doit prendre l'avion à Montréal, et il a besoin d'une place pour coucher, voudrais-tu l'héberger? » Bien sûr, on reçoit le couple missionnaire, l'homme et sa femme, à notre grande surprise, c'est un homme, c'est un monsieur de 82 ans et une femme de 80 qui se présente à notre porte. OK. Alors, on les reçoit, on les invite à notre table et je leur pose des questions, savoir d'où ils viennent, qu'est-ce qu'ils ont fait. Le monsieur avait été missionnaire pendant de nombreuses années, jusqu'à 65 ans, en Amérique du Sud. Il avait implanté plusieurs églises. Et à 65 ans, il a fait ce que plusieurs font. Il a pris sa retraite. Et il est allé chez eux. Dieu l'a gratifié d'une bonne santé. Donc, le monsieur, une fois rendu chez eux, il s'est dit, « OK, Dieu m'a donné encore une bonne santé. Qu'est-ce qu'on fait? » Alors, le monsieur s'est dit, « Je veux me remettre à l'œuvre. » Donc, entre 65 et 80, il a implanté 3 autres églises en Amérique du Sud. Wow! À 80, Dieu lui avait encore laissé sa bonne santé. Donc, il est revenu chez eux, puis en se disant, bon, au lieu de me tourner les pouces, qu'est-ce qu'on fait? Alors, il s'est mis au service de sa mission pour parcourir le Canada avec son épouse et parler de la mission et de la vie missionnaire et encourager les jeunes à considérer la mission à travers tous les séminaires du Canada. Et ça faisait 2 ans qu'il faisait ça. Et je l'écoutais, puis je me disais, « Wow! Quel service! » Et là, une réflexion qui m'est passée en tête, c'est à quel âge qu'on arrête de servir? C'est à quel âge la retraite spirituelle? Pas la retraite, point. La retraite spirituelle, sinon je vais insulter Serge. C'est à quel âge la retraite spirituelle? C'est quand on meurt. Lorsque, dans ma deuxième année de vie chrétienne, j'ai fait jeunesse en mouvement. La plupart des jeunes, vous n'avez pas fait jeunesse en mouvement. Vous avez fait JBEC. Il faut être vieux pour avoir fait jeunesse en mouvement. Du moins, une autre génération. Et c'était en 1973. Et Dieu nous a envoyé notre équipe à Asbestos. Et à Asbestos, il y avait une dame. Moi, je la trouvais âgée. J'avais juste 20 ans. Je suppose qu'aujourd'hui, mes perspectives ont changé. Mais elle ne devait pas être si âgée que ça, finalement. Mais c'était une dame âgée qui était reconnue comme étant l'évangéliste à Asbestos, Madame Gosselin. Je ne sais pas si quelques-uns, c'est un nom qu'ils connaissent, mais Madame Gosselin, la mère de Lionel Gosselin, qui a été pasteur à Saint-Jean à Asbestos. Et Madame Gosselin, c'était une évangéliste, comprenez-vous? Mais au moment où je l'ai connue, ses jambes n'avaient plus leur capacité, elle ne pouvait plus sortir beaucoup, et elle m'a dit, j'oublierai jamais, elle m'a dit, Gilles, Dieu m'a enlevé mes jambes, mais il m'a gardé ma langue. Madame Gosselin téléphonait à ses contacts. Elle leur parlait de l'Évangile par téléphone. Elle téléphonait aux chrétiens. Elle priait avec les chrétiens au téléphone. Et cette femme-là, jusqu'à sa mort, a été un encouragement pour des tas de chrétiens et a été un témoin pour des tas de non-croyants. Jusqu'à sa mort. Plusieurs d'entre vous autres ont peut-être connu Bill Phillips, qui est décédé il y a 3 ans. 15 jours avant de mourir, Bill Phillips, qui est un pasteur de la région de Montréal, qui a commencé le Française, qui a commencé l'association, qui a été un de ceux qui a été mis en prison dans l'Abitibi dans les années 50. 15 jours avant sa mort, Bill Phillips était encore au téléphone en train d'encourager les chrétiens. À quel âge on arrête de servir le Seigneur? C'est quand Dieu nous enlève notre dernier respire. Il n'y a pas de place pour le chômage spirituel dans la vie chrétienne. Et Dieu nous a donné à tous des dons pour qu'on les vive et qu'on les expérimente jusqu'à la dernière minute. Et c'est pour ça que Dieu nous a placés ensemble dans une église, en voyageant dans une église. À un moment donné, j'étais assis à la table et les gens me racontaient comment ils ont servi l'église dans les débuts de l'église. Et là, on me racontait comment on a enseigné l'école du dimanche, on a fait du porte-à-porte, on a fait ci, on a fait ça, et wow, les étoiles, il y avait beaucoup d'étoiles dans leur passé. Et là, j'ai innocemment posé une question, la question qui tue. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous faites dans l'église? Oh, ben, on a laissé ça aux plus jeunes. J'ai manqué de vitesse d'esprit pour poser la question. C'est où c'est écrit dans la Bible, ça, qu'on laisse ça aux plus jeunes à un moment donné? Pouvez-vous me donner le verset? Parce que je commence à filer vieux. C'est pas écrit dans la parole, ça. Parce que Dieu nous donne la grâce de continuer et de continuer et de continuer, oubliant ce qui est en arrière. Et ce n'est pas nos étoiles du passé qui doivent garantir de nos étoiles du présent. C'est la grâce de Dieu. C'est la liberté du pardon en Jésus-Christ. Et c'est la grâce de Dieu pour continuer jour après jour, parce que la Bible nous dit que nous avons la faveur de Dieu qui nous relève. Si on a tombé, si on a été découragé, si on a été frustré dans l'œuvre de Dieu, même, j'oserais même dire, si injustement on a été maltraité par d'autres chrétiens, le même verset demeure, « Ta faveur me relève, ta grâce me relève. » Le pardon en Jésus-Christ me libère de la culpabilité que le péché me colle, que l'adversaire voudrait bien que je garde pour me garder à rien faire, la tête entre les deux jambes et la honte. Et les étoiles du passé, même les étoiles qu'on a eues dans le passé, dans notre vie spirituelle, ne sont pas garantes des étoiles du présent, parce que Dieu nous veut en train de servir. Frères et sœurs, pour ceux qui étaient ici à la première partie, je vous ai parlé du Québec comme une terre missionnaire. Nous avons besoin de prêcher l'Évangile au Québec. Et vous savez ce qui nous arrête? Je vois dans différentes églises, et genre dans des églises comme la vôtre où on est un bon nombre. Vous savez, si on était 40 ce matin ici, là, on sentirait beaucoup plus l'urgence de prêcher l'Évangile autour de nous. Mais quand on est une plus grande église, qu'on a des programmes, des services, on sent moins cette urgence. On a beaucoup de choses à s'occuper à. Mais savez-vous que Dieu nous appelle à le servir? Et pour le servir, on a besoin de faire ce que l'apôtre Paul dit. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi. Mais je fais une chose. Oubliant ce qui est en arrière de moi. Et on a tout un tas de choses à oublier derrière nous. Nos étoiles du passé, nos blessures, nos échecs, on a un paquet de choses à, parce qu'ils sont passés. On doit juste apprendre de ça. Et me portant vers ce qui est en avant, je sers le Seigneur. Je cours vers le but pour remporter le prix de la victoire en Jésus-Christ. Es-tu ce matin en train de courir? C'est même pas écrit « marcher ». Ni marcher lentement, courir. Es-tu ce matin, dans cette église-ci, en train de courir pour servir Dieu? Ou est-ce que tu es atterré par la culpabilité, les blessures, peu importe quoi? Es-tu actif dans l'œuvre du Seigneur? L'église de Beauport a besoin de 100% de gens actif. Si tu ne sais pas quoi faire, il y a un monsieur là qui a plein d'idées. Il a plein d'idées. Si lui n'en a pas, allez voir sa femme. Usuellement, c'est nos femmes qui ont la vérité. Mais vous savez, Dieu a besoin de 100% de vous tous, frères et sœurs, en train de regarder à Jésus-Christ en avant et de le servir avec fidélité, en comptant sur sa grâce, en étant libre de toute culpabilité et en regardant à lui pour toute chose. Peu importe votre âge, peu importe votre état de santé, si Dieu vous a conservé en vie, c'est pour le servir. Peut-être en incluant les limites que vous avez. Mais c'est intéressant de se poser la question, malgré les limites qu'on a, qu'est-ce qui me reste encore? Madame Gosselin, il lui restait sa langue. Et je vous assure, elle était utile. Qu'est-ce qui vous reste? Si vous vous sentez limité, qu'est-ce qui vous reste pour servir le Seigneur? Dieu a besoin de vous à Beauport, dans la grande région de Québec, pour faire avancer l'Évangile, pour que des âmes viennent à Christ. Vous êtes ses missionnaires. Parce que l'œuvre de Dieu a besoin de grandir. Et pour ça, Dieu vous a équipés. Dieu vous a donné des dons et Dieu, jour après jour, vous donne sa grâce pour marcher, être fidèle dans le plan qu'il vous a donné. Prions, s'il vous plaît. Père éternel, on veut ce matin te rendre grâce parce que t'appartenir, c'est vraiment pas comme le monde. C'est une source de puissance, de grâce et de consolation qui est absolument infini. Ô Père du ciel, je te prie ce matin, si quelques-uns parmi nous ont les yeux tournés vers eux-mêmes, vers la honte, vers leurs maux, vers différents éléments qui les arrêtent, qui les bloquent, Père du ciel, par la puissance de ton Saint-Esprit, je te demande de leur donner ce courage et cette foi en toi, de regarder à ta personne, d'être libéré de ce qui les arrête et de te servir. Je te prie, Père éternel, pour chacun ici ce matin que tu as appelé à ton service. Ô Père éternel, donne cette grâce, cette liberté de vivre un service sans boulet à traîner, mais avec les ailes que donne la grâce en Jésus-Christ. Merci, Père éternel, pour le témoignage qui est ici dans cette ville. Et je te prie que ce témoignage puisse grandir à travers chaque personne qui est ici ce matin. Que ta bonté puisse être répandue et que ton salut puisse être prêché dans tout Québec. C'est à travers Jésus-Christ que je te demande ces choses. Amen.